De tout ce que j'ai dit ce matin, qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Qu'est-ce qui vous a parlé le plus?
Le calme.
Le calme.
C'est pas qu'il faut. C'est pas qu'il faut, mais c'est que quand on n'est pas dans le calme, quand on est dans l'émotionnel, on peut absolument pas avoir ses pensées. On voit ses pensées crues sans pouvoir agir dessus. Sans pouvoir les voir crues et se dire ça croit.
Voilà.
Après, moi c'est ce qui m'a marqué le plus parce que je me mets pas en disposition pour être calme. C'est-à-dire, je vois les pensées et puis je suis les pensées et je vois que je le subis, mais je n'en reviens jamais.
Dès l'instant où tu vois les pensées, c'est constaté.
C'est constaté, ça n'empêche pas que je suis entraînée, donc revenir
à. Regarde ce qu'il constate. Rappelle-toi, ah mais ça voit les pensées, ça voit les pensées. Reviens, tu vois, à cela qui constate.
Ce qui m'impressionne, c'est, tout à l'heure je vous entendais parler de Monsanto, etc., c'est de ne pas croire ce que l'on dit. Ça,
Et 2 et 2 égale 4,
hein. Oui.
Je veux dire, c'est une convention, on ne sait pas c'est si 2 font 4 réellement, je veux dire. Mais tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas à mettre de côté.
Il y a une légèreté constante.
Voilà. Par contre, oui.
Ça fait avec cette légèreté constante. Enfin, c'est possible, hein. Ça donne aussi un aspect irréel aux choses. Quand on. Oui, ça donne un aspect irréel.
Ça les relativise. Il n'y a rien d'important. Il ne s'est jamais rien passé. En réalité, il ne s'est jamais rien passé. En réalité,
ça, c'est parce
il ne s'est jamais rien passé.
C'est plus profond que ça. Mais pour nous, ça donne un côté irréaliste.
Oui, tout à fait.
De jeu, d'accord. Jeu, J-E-U. Mais c'est. Ça peut être déconcertant si on n'a pas la. Derrière. Parce qu'on peut jouer avec les choses, hein. Mais. Il y a toujours. On peut avoir joué avec les choses et on peut être un peu de grosses bases dans sa vie. Voilà, parce qu'on n'a pas pris conscience de ce.
Parce que la vie nous a donné une grande claque.
Ouais.
Il n'y a pas besoin d'aller chercher une explication. Je veux dire, comme je disais ce matin, tout est une invitation. De temps en temps, on prend une claque, c'est l'invitation. Hein. Je veux dire, ça ne protège pas des claques, en plus. Ça ne protège pas des événements éventuellement dramatiques ou difficiles pour le commun des mortels. Mais ils ne sont pas vécus de la même manière. C'est ça la différence, c'est que si tu prends l'espace, si vous ressentez l'espace là, vous pouvez constater que l'espace, il accueille tout, toutes les planètes, tous les soleils, le bien, le mal, les hommes, les femmes, les animaux, les plantes, tout, 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 l'amour, la haine, tout est accueilli au sein de l'espace. Ce que vous êtes contient l'espace. Donc tout est déjà accueilli avant même que d'apparaître.
Alors quel est notre rôle là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est supposé faire?
C'est pas censé supposé faire quelque chose, ni avoir un rôle spécial. Est-ce qu'une plante se demande quel rôle est là? Est-ce que le soleil se pose la question du rôle qu'il joue?
On recherche tous notre mission. On a tous une quête. L'humain a une quête.
T'as une quête tant que tu crois qu'il faut que tu fasses quelque chose pour mériter ton bonheur, par exemple. Mais oui.
Mais oui, mais si on a cette pensée, si on est comme ça, c'est bien, ça vient bien d'éducation, ça vient bien de code, ça vient bien d'une culture, ça vient bien...
Le conditionnement, de réaction à la souffrance, du refus de la souffrance.
De quelque part.
Oui.
On n'est pas comme ça.
Oui. Mais t'as cru au Père Noël, c'est pas venu tout seul. Ça rend pas le Père Noël réel.
Mais on aime bien notre Père Noël parce que ça nous permet de nous évader aussi.
Et on aime bien avoir une quête parce que ça nous permet de donner un sens à ce qui nous arrive, par exemple.
Il y a des bonnes et des mauvaises croyances, peut-être.
Pour moi, tant que c'est une croyance fausse, patronner, je veux dire. Bonne ou mauvaise, je m'en fiche, hein, le résultat est le même.
On est sans doute tous là un petit peu parce qu'on est dans une quête, je reprends le mot, d'un rapport plus juste à nous-mêmes.
Du bonheur.
Et d'un mieux-être.
Vous êtes dans une quête du mieux-être. Mais quand vous réalisez que vous êtes le bonheur, qu'est-ce que vous allez chercher? Quand vous réalisez que vous êtes le bonheur, qu'est-ce que vous pouvez bien encore aller chercher? Quand vous réalisez que vous êtes la paix, quand vous réalisez que vous êtes l'amour, qu'est-ce que vous allez encore aller chercher?
Mais est-ce que c'est à la portée de tout un chacun
de réaliser? Vous l'êtes.
Et surtout de garder cet état de conscience.
Je parle de réalisation. Réalisation, c'est vraiment... Ah, c'est fait, quoi. C'est fini. C'est pas seulement le voir ni le comprendre. C'est vraiment...
Mais la force, c'est de constater qu'on ne devient pas, justement, être réalisé, éveillé... Comme ça, d'un coup de baguette magique...
Tu ne deviens pas réalisé, tu l'es. Tu l'as toujours été. Ce qui tombe, c'est les voiles qui empêchent de le voir. Il n'y a rien à acquérir.
Tout est déjà là, j'entends bien.
Tu l'es déjà. C'est déjà là, dans le sens de je l'ai déjà. Tu l'es.
Sauf qu'il y a tous ces voiles, ces écrans qui empêchent...
Qui sont des pensées crues.
Obstacle à ce rayonnement qui est là, déjà.
Oui, plus ou moins. Apparemment, ça fait obstacle. Seulement apparemment, vraiment des apparences. Tant que c'est toujours, souviens-toi ce que je disais juste avant midi, tant que tu es collé à je suis, moi, un organisme corps mental dans le monde, tu vas parler depuis ce point de vue-là, et depuis ce point de vue-là, évidemment qu'il y a la souffrance, et évidemment que tu vas essayer de la résoudre. Si tu reviens à cet être que tu sais que tu es, que tu sais que tu ne peux pas ne pas être, déjà, c'est décollé. La recherche, déjà, elle s'arrête. L'être ne cherche rien. Et alors, quand on va en plus à ce qui est... Là, il est vu que tout ça, il n'y a rien, quoi.
Mais alors, cas pratique, revenons à un cas pratique, celui que j'évoquais tout à l'heure, dans un cas de conflit, de non-communication, de non-capacité à faire ce pourquoi on est là à un moment donné, comment trouver l'attitude juste par rapport à cette quête qui est toujours en moi et qui est toujours dans l'autre en face de moi pour que les choses puissent se passer.
L'attitude juste va se révéler d'elle-même à partir du moment où toi-même tu prends refuge en tant qu'être. Si toi-même tu reviens à cette conscience d'être, tu sais que tu es, tu sais que tu ne peux pas ne pas être, et que tu restes avec ça. À un moment donné, c'est ça qui va s'exprimer, avec beaucoup moins de voile, avec moins de conditionnement. Et ne t'occupe pas du résultat, il ne t'appartient pas. Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une stratégie pour... C'est justement l'absence de stratégie. Mais quelle complète liberté, quelle tranquillité. J'ai plus besoin de me soucier de savoir ce que je vais faire. Ça va se faire.
Il faut une sacrée confiance pour faire ça.
Tu es la confiance même.
Par exemple, par rapport à un cours à donner, ou voilà.
Ça t'empêche pas de préparer ton cours. Hein. Ça, c'est une autre histoire, ça. Mais la manière dont il va se dérouler, si tu le sens le besoin. Regarde, tu crois que j'ai préparé quelque chose avant de venir ici? Ça n'a juste pas de sens, quoi. Je viens, je m'assois, et puis ça parle, ça dit des choses, ça se tait, ou ça pose une question, et puis ça répond, etc. C'est la vie qui se déroule. Si tu veux, la connaissance que tu as en tant qu'enseignante, en tant que professeur, elle est en toi. Alors au pire, il y a le programme, et puis évidemment, mais de toute façon, quelque part, le programme, il est aussi en toi. Donc à partir de là, si tu veux, si simplement tu es là, toi, qui tu es, non pas en tant que professeur, mais en tant qu'être humain, en tant qu'être, évidemment qu'il va passer à autre chose. Évidemment qu'il va y avoir d'autres réactions qui vont être opposées. Qui ne vont pas s'appuyer sur un programme, qui ne vont pas s'appuyer sur... Et peut-être s'il va y avoir un temps de conflit, de réaction forte de la part des élèves, tu vois, et alors ? Ça fait partie de la vie, ils ont besoin d'exprimer quelque chose. Et tant que ce qu'ils essayent d'exprimer ne sera pas entendu, ça c'est sûr, ça ne pourra pas aller plus loin. Mais on le sait bien même pour nous-mêmes, quand on est blessé par quelqu'un, puis qu'on lui explique, mais t'as fait ci et ça m'a blessé, ah oui, mais enfin tu m'embêtes avec tes histoires, puis tu es tellement émotionnel, et puis ça ne nous aide pas. Puis il nous regarde droit dans les yeux, puis il le vit vraiment, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. C'est fini, on n'y pense plus, parce qu'on a mis l'impression d'être entendu. C'est comme ça pour nous, c'est pareil pour les enfants, pour les ados, c'est pareil pour tout le monde.
À ce degré que parfois ça, juste le fait de dire excuse-moi tout ça, ça part pas tout de suite. Après, il y a quand même quand il y a eu souffrance morale.
Il faut un temps, mais en tout cas, ça va mieux, ça se relâche. Et puis peut-être que c'est pas une fois excuse-moi, peut-être ce sera deux, peut-être que je sais pas. Mais au moment où on se sent entendu, forcément la pression se relâche. Et on n'est plus tout le temps à vouloir faire entendre raison à l'autre, de vouloir se faire entendre. Ça s'arrête parce qu'on a été entendu. Là, on peut vouloir se faire entendre en insistant, on peut vouloir se faire entendre en s'éclipsant, en faisant comme si on n'était pas intéressé, en étant ailleurs ou n'importe quoi d'autre. Il peut y avoir plein de façons de dire tu m'entends pas, alors du coup, ben, je te boude. Tu vois ? Mais c'est des mécanismes qu'on connaît bien chez nous, ça. Enfin, moi je suis le seul. Enfin, moi je connais bien, c'est moi, chez moi. Mais c'est ça aussi peut-être qui se passe, c'est que moi je vois tellement, ce que je vois chez les autres, je le connais tellement chez moi. Je sais que je suis aussi comme ça. Comment je peux pas l'entendre, comment je peux pas le comprendre, comment je peux pas l'accueillir, comment je peux être contre, comment ce serait être contre moi-même. Ça n'a pas de sens.
Oui, c'est sûr, vous avez cette écoute empathique qui est fort agréable. Mais d'un autre côté aussi, j'ai un peu le sentiment que vous avez du mal à comprendre que, qu'on ne comprend pas si vite, que pour nous, tout ça, ce sont des problèmes.
Quoi, des problèmes ?
Parce que toutes nos questions, toutes les questions qu'on vous pose,
Non, je comprends très bien.
Non, mais...
J'ai pas de problème avec le fait que vous posiez 10 fois la même question. Moi, c'est complètement OK comme ça. J'ai aucun souci avec ça. Je demande pas ce qu'est être compris en plus. Et surtout, je demande pas du tout à être cru. Ce serait une croyance de plus. Non, il n'y a pas de souci avec ça.
Non, moi, j'avais cru ressentir que tout ce qu'on peut dire, en fait, c'est. On devrait. C'est un petit peu inutile, qu'on devrait être
non. Cool. Non, il n'y a pas de choses comme ça chez moi.
Non.
Vraiment non. Ce serait des devoirs, ce serait encore une imposition d'une croyance ou des choses comme ça. Par contre, peut-être que tu as déjà vu dans ta vie des gens qui faisaient pression sur toi parce qu'ils trouvaient que tu ne comprenais pas assez vite ou je ne sais pas quoi. Ça peut-être ça te parle.
Ça te ressemble, effectivement.
Non, tout est bon.
Parce que ce qui est facile pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre.
J'ai été de l'autre côté, je veux dire, pendant longtemps, donc je sais bien comment c'est. Au début, quand on m'a présenté toute cette perspective non-duelle, j'ai résisté à fond la caisse. Pour moi, c'était juste pas possible. Je trouvais ça tellement froid. Et c'était
voilà,
pas
c'est
amour,
ça, c'est le froid et indifférence. Ah, ouais. C'est ça que je ressens.
C'est faux. J'entends bien ça, ouais, c'est faux. En fait, moi, j'ai commencé par une voie beaucoup plus mystique. La première chose que j'ai faite, c'est une expérience mystique, comme celle décrite par les saints des livres, là. Et donc pour moi, l'amour, c'était vraiment l'amour, quoi. L'amour, tout est amour, et voilà. Et c'est vrai que quand j'ai inventé le côté sagesse, entre guillemets, parce que c'est un peu, on pourrait dire, les deux faces d'une même pièce, de la même pièce de monnaie, ça m'a paru vraiment froid. Et j'en voulais pas, quoi. J'en voulais pas. Alors, je peux bien comprendre que vous en vouliez pas non plus.
Et quel fut le déclic ? Qu'est-ce qui a fait que...
Ben, ça a résisté, mais je sentais quand même qu'il y avait de la vérité dedans. Hein. Je sentais qu'il y avait des choses complètement vraies, mais je trouvais ça froid. Moi, je voulais l'amour. Et en fait, ce qui m'a réconcilié, c'est des gens comme, je ne sais plus exactement, mais j'ai lu du bouquin, je ne sais plus si c'était Nisargadatta Maharaj ou Ramana Maharshi, où il parlait des deux, justement. Qu'en fait, les deux se répondent. Les deux, c'est la même chose, mais simplement, on vient d'un côté ou de l'autre côté de la montagne, mais au bout du compte, c'est la même chose, c'est la même montagne. Et... Oui, je constate juste qu'aujourd'hui, c'est plus ce côté, entre guillemets, sagesse qui s'exprime que le côté amour. Alors que, il y a 10 ans, c'était l'inverse. C'est curieux. Oui, je veux juste voir que ça, quoi. Mais si vous voulez, l'autre côté, pour moi, c'est évident que tout, absolument tout, c'est de l'amour pur et conditionnel total. C'est une évidence. Tout.
Même dans les affrontements, dans les conflits,
ouais. Ouais. Même les choses les plus horribles, c'est la manifestation de l'amour, c'est de l'amour en train de s'exprimer. C'est pour ça qu'il peut y avoir aussi cette légèreté et cet amour, parce que c'est quand même l'amour hein, ce qui se manifeste là. Même si ça ne prend pas... un aspect très, très enveloppant, des choses comme ça. Moi, je le ressens, l'amour.
Parce qu'on dit que la face cachée de l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur.
C'est... Oui, ça, je sais pas. Moi, je parle d'un amour qui n'a pas de contraire. Je parle de choses... Quand tu... Si vous voulez, au niveau existentiel, on va opposer l'amour et la haine, le jour et la nuit... les hommes et les femmes, etc. Et on ne devrait pas les opposer, on devrait dire qu'ils sont complémentaires, ça irait déjà beaucoup mieux. Ils se complètent l'un l'autre. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et on pourrait parler aussi d'une dualité entre l'existence et l'être-té, ce je suis dont je vous parlais. Ou je suis juste dans l'être-té, ou je suis dans, pris par l'existentiel. On pourrait voir ça un peu comme une opposition, ou c'est pas l'un ou l'autre, quoi. En fait, c'est tout un. Mais surtout au niveau de cette être-té, de toutes les manières, il n'y a pas. C'est la paix, c'est le calme, c'est la tranquillité dont on parlait ce matin, je ne sais plus quel autre mot vous avez dit, c'était animé, etc. Toutes ces choses-là, c'est sans contraire. C'est la vie, mais sans l'âme, sans une idée de mort. C'est la paix sans une idée de je ne sais pas quoi. Et c'est pareil, c'est l'amour sans objet, qui n'a pas besoin d'être un objet pour être. Comme pour être de l'amour et ni pour être ressenti comme de l'amour et qui aime tout, tout objet qui peut se présenter. Sinon ce ne serait pas inconditionnel, ce ne serait pas de l'amour pur.
Et l'idée de pour accéder à tout ça, de faire un travail vraiment sur ses peurs, se libérer de ses peurs, être tout le temps réalisé, quoi.
Il n'y a pas une. Il n'y a pas une voie valable pour tout le monde.
C'est la question des pratiques, quoi. Est-ce que ça a encore un sens de dire voilà, je vais faire telle ça pratique, dépend. Utiliser tel outil pour,
oui et non, oui.
Pour accéder à tout ce.
Dans l'absolu, non, puisqu'il n'y a rien là. Au niveau existentiel, voilà, pourquoi pas vrai.
Oui, relatif,
exact, ouais. Exact. La question est, là maintenant, qu'est-ce qui te meut ? Quel est ton allant ? Non pas quel est ton désir, ou quels sont tes refus, ou quelles sont tes attentes, ou quelles sont tes stratégies pour, mais quel est ton allant naturel ? Si ton allant, c'est d'aller t'éclater en jet ski, puisqu'on est au bord de la mer, va t'éclater en jet ski. Tu comprends ce que je veux dire? Et si ton allant c'est de te poser et de méditer, pose-toi et médite.
Il n'y a pas de stratégie, quoi. C'est
Toute stratégie est vaine. Parce qu'elle est fondée sur l'idée d'un moi, elle va le renforcer. C'est parce que je crois en un moi qui peut aller quelque part que je mets en place une stratégie. Qui peut réussir quelque chose, qui peut gagner quelque chose grâce à ses propres efforts, etc. que je mets en place une stratégie. C'est fondé sur l'idée d'un moi. Ça ne peut que le renforcer. Ou bien alors, je tire tellement force élastique qu'à la fin, on est épuisé ou ça lâche. Dans ce cas-là, ça peut revenir à la vision initiale très rapidement et fortement. C'est un peu un coup de chance. Mais c'est vraiment au contraire. Revenir à ce que je suis, à l'être que je suis, qui lui est sans stratégie, quoi. Tu vois ? C'est ça l'idée de revenir, redevenir comme un petit enfant. Est-ce que les petits enfants, quand ils jouent, ils ont l'idée d'un but et d'un rôle dans la vie ? Je crois pas, quoi.
Certains.
Bah, plus tard, il faut dire qu'ils soient bien conditionnés, hein. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. T'as rien de spécifique à faire. T'as juste à être qui tu es. C'est tranquille, quoi.
T'as rien à te faire. Oh, formidable.
Le sage agit, mais il ne fait rien. Oui, il va bien.
Bon, j'ai une autre question. C'est un peu dévié, mais bon, enfin, ça, c'est pas très trop avoir avec. Le rêve dont tu parles, ce rêve, tout ça est un rêve. Et les rêves qu'on fait dans l'état de sommeil, quel est. Bon, alors, voilà, j'explique. Dans l'état de veille, j'ai de plus en plus la sensation d'être dans ce calme, cette paix, etc. etc. Et depuis quelques mois, mes nuits sont remplies de rêves où, voilà, c'est le psycho-émotionnel qui est là à fond la caisse. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, la journée est calme et la nuit est plus
agitée. Alors, je me réveille. Et en plus, c'est des rêves récurrents, quoi. Des gros trucs. Voilà, nuit après nuit. Alors, effectivement, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure de réveil, c'est glauque. Et je ne m'endors pas non plus avec la peur, la hantise, à nouveau replonger là-dedans. À la limite, j'en ris, pour ça c'est sûr.
C'est des rêves de peur.
Alors, qu'est-ce qui va encore
hein? Ce sont des rêves pleins de peur.
Pas de peur, non. De relations anciennes qui, voilà, qui sont terminées. Et voilà, on me replonge, je me replonge dans tout ce
tu ne te replonges pas, c'est pas toi, ouais, toi voilà. Tu fais rien du tout. Ouais. Oui, mais c'est généralement un émotionnel qui n'est pas complètement apaisé, je veux dire, qui n'est pas complètement. Sur lequel le regard ne s'est pas assez porté. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses à entendre, à voir.
Donc c'est un travail
à laisser être avec.
Dans l'état de veille, c'est ça. J'ai encore à essayer de soulever la poubelle, parce que c'est pas forcément des choses vilaines, quoi. C'est juste. Enfin bon, pour le.
Il n'y a rien de spécifique à faire.
Voilà, c'est une attache, quoi.
Oui. Il n'y a rien de spécifique à faire. Il faudrait que je fasse ça pour, tu vois. De nouveau, attention à la stratégie. Par contre, si tu vois qu'il y a une attache qui se répète, alors c'est intéressant de regarder le mécanisme de l'attache. Comment c'est attaché ? Qu'est-ce que c'est qui attache ? Où est-ce que c'est déjà dans le corps ? Comment ça se manifeste ? Quelles sont les tensions corporelles, les sensations corporelles qui se manifestent ? Et puis, quelles sont les pensées liées ?
Et ces pensées, dans l'état de veille, je suis avec, je chemine avec. Mm-hmm. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la nuit, bingo, je me fais rattraper pour tout ça.
Bon, j'arrive. Il n'y a pas besoin d'en faire une histoire. Parce que, en plus on en fait l'histoire, plus ça peut se répéter. Tu vois. Plus je vais essayer de comprendre, plus ça te va, plus tu fises dessus. Ouais. Et puis, bah, ça arrive. De toute façon, il y a des choses à voir, et il y en aura peut-être jusqu'à la fin de nos jours. Et bah, on les verra. ne pas en faire une histoire. Il y a des rêves.
Moi, ce que j'arrive pas à voir, c'est l'amour. Quand j'ai envie d'étrangler quelqu'un ou franchement une situation, non, mais c'est une façon de parler. Mais quand je suis sous pression, quand je suis dans une. Parce que ça m'est arrivé cette semaine d'être très agressive ou agressive refoulée, d'avoir beaucoup d'agressivité, mais l'amour, je ne vois pas du tout. Et ça je veux bien entendre. Mais quand
c'est au minimum de l'amour pour toi-même qui est en train d'essayer de te préserver. De te protéger.
Oui.
Mais même sans ça, parce que je ne dis pas que tout acte existentiel est de l'amour. On a inventé le Moen, c'est pour rien. Je dis que dans l'absolu, c'est de l'amour, que c'est l'expression de l'amour. Plus justement.
Je ne vois pas du tout. Quand on me fait une poisson, je ne vois pas l'amour dans l'autre. Je vois pas le gars, enfin je vois pas le. Je suis. Enfin, je pense que la plupart des gens ne voient pas l'amour, sinon ils vont dans un autre monde. Mais.
Mais dans la plupart, dans la plupart des cas.
Une réflexion psychologique qui nous amène à voir
l'amour. C'est une question, oui, tout à fait. Dans la plupart des cas, tu oublies aussi que tu es et que tu peux pas ne pas être. Ça ne veut pas dire.
C'est émotionnel aussi, ça c'est sûr.
Parce que tu es happé par les choses existentielles, par l'existence, par ce qui arrive.
Oui, je suis happé.
Et ça voile, on pourrait dire, ça voile l'être-té. C'est un peu un abus de langage, mais.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire. Et c'est pareil avec l'amour. Le fait d'être happé par l'existence voile ce que nous sommes. L'amour, la paix, la joie, le bonheur, etc. La sérénité, le calme, la tranquillité, toutes ces choses qui n'ont pas de contraire. Que nous sommes l'accueil.
Dans les cas extrêmes, ça peut bien sûr mener à des maladies très graves, à la folie, à la mort. À force d'être voilé par rapport. Enfin, d'avoir des voiles qui nous empêchent d'être en communication avec cette
maladie. Oui, et d'un point de vue. Essentiel, ça n'a aucune espèce d'importance, ça ne retire rien.
Oui, j'ai bien entendu ce que tu dis, bien sûr. Mais sur le plan de notre existence ici-bas, le terrestre, de notre existentiel, quand justement ces voiles se font trop lourds, ça peut aboutir à ces cas extrêmes, enfin, on en voit tous les jours, enfin, des gens qui passent à l'acte, qui
ça
se suicident, ou qui tuent l'autre. Et pas uniquement de manière symbolique, parce que ce dont elle parle, je veux dire, c'est l'acte d'agressivité, on fait tous les frais tous les jours de notre vie, dans notre vécu, c'est une façon de tuer l'autre de manière symbolique. La haine,
ça. Tu es en train de dire ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la folie humaine est dite la maladie humaine, ce sont les pensées crues.
Oui, mais voilà, mais il s'agit aussi de ne pas nier. Du moins sur le plan existentiel, je crois que c'est ça qu'elle veut dire, quand on est englué là-dedans, on a besoin de déjà d'avoir fait un certain chemin pour être apte dans les moments où on est dans cette tourmente, où on est assailli par ces pensées crues, pour pouvoir arriver et faire ce décrochage dont tu parlais tout à l'heure, et se rappeler que justement on n'a jamais cessé d'être aussi cet être de lumière, d'amour, etc. Et peut-être grâce à ça, pouvoir réinstaurer un équilibrage autre. Mais
là, tu le remets de nouveau en stratégie avec l'idée de quelqu'un qui peut faire quelque chose.
Bien, non, mais.
Parce que lorsque le regard se porte sur les choses, lorsqu'il t'est donné de revenir à l'être-té, c'est quelque chose qui est donné. C'est pas quelque chose que tu peux faire de toi-même. Il n'y a pas moi qui peut le faire.
J'entends bien que c'est une grâce, et d'ailleurs c'est le mot que tu as prononcé tout à l'heure.
Ce que je veux dire, c'est que tu peux vraiment te laisser, tu peux t'abandonner à ce qui arrive, en ce sens que tu n'as pas la maîtrise, tu n'as jamais eu le contrôle. C'est-à-dire que, et, tu comprends, c'est dans l'autre sens, il n'y a pas à essayer de mettre en place une stratégie de regard.
Je l'entends, sauf que très souvent, on en a. Dans les moments où on est assailli par ces pensées qui nous enveloppent la haine, le désespoir, on n'a pas toujours la force pour.
Exact.
voilà, pour laisser à nouveau.
Exact. Eh ben, tu n'as pas la force. Et quand tu n'as pas la force, tu n'as pas la force. Et c'est OK. Tu comprends ce que je veux dire?
On peut être accablé, on peut même développer des symptômes.
Oui.
Et
c'est OK.
Notre santé peut être atteinte gravement. Ça peut être des insomnies.
Et c'est OK.
Ça peut être bien autre chose, ça peut être même des cancers, semble-t-il, à certains moments, quand ça devient trop, quand la tension devient trop grande.
Et c'est OK.
Et c'est OK.
C'est ça le truc, tu vois. Tu sens le refus?
Non,
Si. Le refus de ce qui se passe.
Tu voudrais tellement que ce soit autrement.
Non, je sens surtout, je suis engluée dans cette mélasse.
Et tu voudrais tellement que ce soit autrement.
Ah ben oui, c'est normal.
Tu refuses, on pourrait dire, c'est normal, c'est oui. Mais on peut dire, tu refuses d'être engluée. Tu ne fais pas l'expérience pleine et entière d'être engluée. Tu n'épouses pas l'engluement. Alors il va te cheviller au corps. Parce que tant qu'il n'est pas entendu, il va continuer à frapper à la porte.
Alors, il faut lui dire merci à cet engluement.
Non. Il faut d'abord regarder le refus, parce que tant que le refus n'est pas regardé, le reste ne peut pas venir. Il va être mis de côté. J'en veux pas.
Je demande qu'à regarder, peut-être avec...
Le refus.
Auprès d'à tous, pourquoi est-ce qu'il y a un tel refus? Je suis sans doute pas la seule.
Mais pourquoi pas? Mais évidemment, le refus, je tiens... C'est la souffrance, on pourrait dire. Toutes les pensées souffrantes sont peut-être pas liées au refus, mais au moins 90%.
Est-ce qu'on peut tout accepter? Voilà, est-ce qu'on peut tout accepter?
Mais la preuve que non, puisqu'il y a des choses que tu refuses.
Non, oui, c'est sûr.
Ouais, mais c'est OK. C'est OK qu'il y ait du refus. Mm-hmm. Parce qu'après, il y a refuser le refus, tu comprends, je devrais accepter. Non, c'est pas la peine. Il y a du refus, c'est OK qu'il y ait du refus. Ah oui, si je refuse. Et je refuse d'être englué, et je refuse la situation dans laquelle je suis au niveau professionnel, et je refuse je sais pas quoi. Eh ben oui, je refuse. Enfin, ça refuse. Ouais. Eh ben oui, ça refuse. Il fait l'expérience du refus. C'est bon de refuser. Tu vois, ça donne de la stature, ça donne de la force, ça donne... C'est sympa. C'est pas une expérience négative, le refus. Hein. T'es d'accord?
Mais là, tu touches du doigt, effectivement, un des problèmes, c'est que j'ai beaucoup de mal à être dans l'affirmation de moi.
Ouais.
Dans la confiance en moi, dans l'affirmation en moi.
Le en moi est de trop, à chaque fois, je trouve. Désolé, tu vois ce que je veux dire. Tu veux un moi qui soit fort, tu veux un moi qui assume, tu veux un moi qui. Mais il n'y en a pas!
Il n'y en a pas.
Il ne peut pas se renforcer!
J'entends. Donc c'est bon de refuser, c'est bon d'accepter de refuser.
Je dis pas que c'est bon. Je te dis, regarde comment c'est chez toi le fait de refuser. Moi je sais que chez moi le refus c'est sympa. C'est une expérience sympa. Pas tout le temps, hein, puis ça dure pas. Mais aussi parce que c'est pleinement accueilli. Comme c'est pleinement accueilli. Ça fait très vite rire et ça passe à autre chose.
Est-ce que tu peux donner des exemples concrets? Ça veut dire quoi ça? Parce que voilà, moi, me demander de d'accueillir de façon sympa.
Mais non, je ne te demande pas d'accueillir.
C'est certaines choses que je refuse.
Non, c'est beaucoup trop d'efforts pour rien.
T'accueilles pas ce que tu dois, enfin ce que tu refuses, c'est que tu accueilles ton refus, tu acceptes d'être refusé.
Même pas.
Un refus.
Même pas.
Non.
Il y a du refus, tu es avec. Tu le regardes. Tu es à l'écoute de ton refus. Tu prends le mot qui tu préfères. Tu vois? C'est comment refuser dans le corps? Quelles sont les sensations corporelles du refus?
C'est des sacrées tensions, ou quoi même que c'est arrivé jusqu'à des blocages.
Non, là maintenant tout de suite.
Ah, là tout de suite, c'est. Ouais, c'est une certaine constriction quand même.
À quel endroit dans le corps?
Au niveau déjà ici du plexus solaire, oui. Au niveau des épaules.
Voilà. Ouais. Donc le refus, ça fait des constrictions dans les épaules, le plexus solaire, un peu partout dans le corps, etc. Mmh. C'est très désagréable.
Oui.
Très très désagréable.
Ça peut devenir très désagréable.
Non mais là tout de suite.
Là ça va, c'est supportable.
Supportable.
Là je rigole.
Eh, bon point.
Bah oui, ça m'arrive quand même.
Donc, tu peux être avec ces constrictions et rigoler.
Oui, en les dissociant, en les regardant, oui.
Ah, à partir du moment où je suis le regard qui constate, à partir du moment où je suis cela qui constate ce qui arrive, ça devient plus léger. Et quelles sont les pensées de refus, là, maintenant? Maintenant, on a vu le corps, je passerai une bien grave, ça peut me faire rire, ok, les pensées. Qu'est-ce que je refuse là maintenant tout de suite d'être englué, tu disais? Là, rien que la pensée déjà.
quand j'ai utilisé cette phrase, c'est des situations dans mon vécu professionnel.
Donc je refuse d'être englué. Oui. Est-ce que tu vois que c'est une pensée ça? Je refuse d'être englué. Si tu ne pouvais pas penser cette pensée.
Ça irait très bien.
Ça irait très bien. D'accord? Bon, le manque de peau, cette pensée arrive. Mais si elle arrive et qu'elle n'est pas crue, elle passe comme un nuage entier. Ça va aussi très bien. Donc c'est bien le fait qu'il y ait cette pensée, qu'elle soit crue, qui crée le problème. D'accord? C'est pas le fait d'être englué qui crée le problème. C'est le fait qu'il y ait une pensée étiquetée « je refuse d'être englué » et qui est crue qui crée une souffrance. C'est pas la situation qui crée la souffrance.
Oui, mais quand je suis dans le vécu situationnel de rapport à des personnes bien réelles en face de moi qui, avec lesquelles je rentre en conflit, là on ne peut pas dire que c'est juste une pensée, il y a une vraie situation.
Mais ce qui rend la situation, elle est réelle. On ne va pas remettre en d'autres causes la situation, elle a son réalité existentielle. Je parle de la souffrance. Si tu veux te débarrasser. Le mauvais temps, tu n'arriveras jamais à t'en débarrasser, quoi. Hein. C'est pas de la situation, c'est de la souffrance. Une situation non souffrante, c'est ok. Tu vois ce que je veux dire? Si en plus elle te fait rire, parce que c'est constaté, ça n'a même plus besoin de chance de la changer. D'accord? D'accord? Donc le problème, enfin ce qui crée la souffrance, c'est la pensée crue. À propos de... Comment c'était? J'ai oublié.
D'être englué.
Je refuse d'être englué. Je refuse d'être englué. C'est ce refus de l'englument, appuyé sur une idée d'un moi, il y a les deux, qui crée la souffrance. Parce que c'est cru. Si ce n'était pas cru, ça ne créerait pas de souffrance. Est-ce que ces pensées résout quelque chose? Non. Est-ce qu'elle aggrave les choses? Déjà, elle crée de la souffrance.
Pour le moi, oui. Elle aggrave les choses pour le moi, pas pour le corps physique.
Même pour le corps.
Qui symptomatise certaines tensions.
Est-ce que... Donc, est-ce qu'elle a un intérêt, cette pensée?
Vraisemblablement pas, non. Elle aggrave.
Quel est l'intérêt de la croire?
Aucun.
Qu'est-ce qui fait que je crois en une pensée qui crée de la souffrance, qui ne crée rien de positif?
Autodestruction.
Ça, c'est encore une pensée.
ça finit par se tourner contre moi, bien sûr. Pas contre moi.
C'est encore une pensée, tout ça, oui. Mais... Et regarde le mécanisme. Moi, je parle toujours de regard. Hein. Quel est le mécanisme? Comment ça se passe? Il y a une situation. Il y a une pensée de refus qui apparaît. Cette pensée de refus est crue. Il y a de la souffrance. D'accord? Ça, c'est... Maintenant, si on essaie de détailler plus, il y a une pensée qui apparaît, elle est crue. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que cette pensée qui apparaît soit crue? Je demande à Maria, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Hein. Regardez pour vous.
Parce que c'est ce moi qui par ses conditionnements, est porté à croire que c'est ça qui est...
Simplement, il y a un conditionnement qui dit les pensées sont vraies.
Oui.
Donc il y a une pensée, les pensées sont vraies. Et elle est crue. Si cette pensée n'était pas crue, il y en a des choses qui changeraient. Et est-ce qu'elle est vraie, cette pensée? Qu'est-ce qui prouve que les pensées sont vraies? rien. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'on est sûr qu'elle est vraie, cette pensée? Est-ce qu'elle mérite d'être crue sur parole? Les pensées sont vraies?
Bien sûr que non.
Et c'est comment, là, maintenant? Les pensées sont vraies. Ça te paraît toujours si vrai, ça?
Ben non, elles peuvent être fausses aussi.
Les pensées peuvent être fausses.
Bien sûr.
Rien ne prouve que les pensées sont vraies.
Tout ce qui est produit par le mental peut être, comme je disais tout à l'heure, opérationnel dans l'existentiel, pratique, ou à l'inverse, totalement faux et n'avoir aucune réalité.
Oui, on distingue deux formes de mental. Un mental, celui qui calcule, qui prévoit des choses, etc. Tu vois. Et puis le mental, ce qu'on appelle discursif, qui est tout ce côté psycho-émotionnel de croyance. Un mental pratique, si tu veux, et un mental discursif. Donc si on revient au refus maintenant, est-ce que la pensée « je refuse d'être englué » doit être considérée comme vraie et doit être considérée comme ayant une valeur, mérite d'être crue? Chose qui construit une image, une identité.
Elle est profondément liée à l'ego, bien sûr. Profondément.
Et si tu pourrais accepter de la laisser tomber, cette pensée? D'arrêter de la croire?
Je travaille, hein, c'était...
Voilà, tout de suite.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, si je suis là, c'est sans doute qu'il y a un autre regard qui est porté aussi sur tous ces phénomènes.
Et tu vois, en tout cas, la fonction du refus, là, tu viens juste de le dire, c'est de te protéger de peur. Tu vois? Et ça, c'était pas conscient avant. Enfin, en tout cas, t'en parlais pas. C'est-à-dire que tu vois, il y a l'engluement, ça, c'est ce que tu connais et que tu veux pas, et tu restes là. Puis quand tu dis, mais attention, tu refuses d'être englué. Et puis quand on regarde le refus, tu dis, ça me protège de mes peurs. Tu vois, c'est un tiroir, ces histoires. Et tu vois que là maintenant, pour moi, ce qui serait important de voir, c'est les peurs. Parce que tant que les peurs ne sont pas calmées, tant qu'elles ne sont pas écoutées, accueillies, et il n'y a personne pour les accueillir, il y a accueil de la peur à un moment donné, le refus, il a sa fonction de protection apparente, même s'il ne protège pas réellement. Et donc, on ne peut toujours pas aborder l'engluement tant que on n'a pas vu ce qui se passait en amont. Bien sûr, tout le monde. Et tu disais aussi que ça te... C'est moi qui dis forger une identité, te structurer quelque part, hein, ce refus. Enfin, tu as dit quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement tes mots.
Non, peut-être que j'ai dit, est-ce qu'on peut tout accepter? Il y a des choses qui me paraissent inacceptables et tu as dit, accueille ton refus.
Tu ne peux rien accepter, il n'y a pas de moi qui puisse accepter ou refuser quoi que ce soit. Il n'y a pas de moi. En ce sens-là, il n'y a pas de possibilité d'accepter ou de ne pas accepter. Il y a un refus qui se présente ou il y a une acceptation qui se présente, qui arrive. C'est pour ça qu'on peut vraiment être au regard et qu'on peut vraiment se détendre. C'est juste ce qui arrive, ça arrive à personne, il n'y a pas de moi. Ça arrive pas à un quelqu'un, ça arrive bien à cet organisme corps mental appelé Maria, mais ça n'arrive pas à un moi individu séparé, capable de penser par lui-même, de faire des choix ou de poser des actes par lui-même. Et ça a besoin aussi d'être exploré, c'est-à-dire est-ce que c'est toi qui penses tes pensées ou est-ce que les pensées apparaissent? Ça c'est à refaire, mais tout le monde, hein, tous les jours, par rapport à ces trois thèmes, est-ce que c'est moi qui agis ou est-ce que les actes sont posés? Est-ce que c'est moi qui fais les choix ou est-ce que les choix arrivent? se font à un moment donné. Et est-ce que c'est moi qui pense mes pensées ou est-ce que les pensées apparaissent? Ça, c'est des choses jusqu'à ce que ça rentre, que je dis, ah bah oui, bah, c'est vrai. C'est pas moi.
Mais ça veut dire alors qu'en fait, on est personne. Puisque les pensées se présenteraient d'elles-mêmes et que le moi n'est rien, ça veut dire qu'on est personne. C'est le mythe de la personnalité. C'est un mythe.
Je ne sais pas ce que tu appelles personne. Tu n'es pas un moi. Tu n'es pas un individu séparé. Il n'y en a pas. Mais tu sais que tu es. Et tu sais que tu ne peux pas ne pas être.
Il est constitué de quoi, puisque penser.
Bon, l'être, tu regardes et si tu trouves quelque chose, tu me dis, mais il y a l'être-té qui est conscience d'être, c'est calme, cette paix, cette vie dont on parlait tout à l'heure. Mais ça n'a pas besoin d'être constitué d'un corps. Tel qu'on conçoit, en tout cas, pour être.
Moi, ce que je comprends dans ce qu'on vient de dire, c'est que la souffrance n'existe pas, que c'est une création mentale. Donc, moi,
elle existe, mais elle n'est pas, je dirais.
Elle n'existe même pas.
Elle existe, au niveau existentiel, on ne peut pas en douter, mais elle n'est pas. C'est au niveau essentiel, en réalité, c'est une apparition dans la conscience.
Quand je me disais je refuse la souffrance des autres, c'est oui, j'ai peur de la souffrance des autres parce que. Enfin, c'est une. Je refuse, ça engendre ta propre souffrance. Hein. Donc je souffre de la souffrance des autres, mais la souffrance des autres.
C'est la tienne.
C'est. Oui, c'est une souffrance qui existe, mais qui en réalité ne repose sur rien.
Ne repousse
Ne repose sur rien.
Sur des pensées crues.
Sur des pensées crues. Mais est-ce qu'on peut souffrir du fait que les autres souffrent?
Bien sûr.
Ça.
Tu le sais.
Oui.
Parce que c'est lié à tes pensées à toi.
Si je pense que je peux. Enfin, si je pense. Parce que.
Ouais, c'est pas tout à fait vrai ce que je viens de dire.
Non. Les autres souffrent. Je souffre, qu'ils souffrent.
Il y a deux choses, ou bien je souffre qu'il souffre parce que je n'accepte pas la souffrance. Ça c'est juste tes croyances et ta souffrance.
Ouais.
Et je souffre des autres qui souffrent simplement parce que c'est ce qui arrive.
Ouais.
Tout le monde, si on voit quelqu'un qui se fait mal, on a une réaction, on a quelque chose, on le ressent aussi en soi.
Donc en fait, il y a la création, mais en fait, c'est Nama, enfin, comment est-ce que j'avais appris, c'est Nama Europa, les pensées ou les émotions, elles viennent de la forme ou elles viennent de la pensée. Donc c'est deux manières dont elles peuvent émerger.
Mais la forme est une pensée.
Oui, peut-être. Je sais pas. Je sais pas à ce stade-là, pour moi, c'est ça. Mais la souffrance, dans la mesure où c'est une. C'est la conséquence d'une création mentale. Pourquoi on souffre de la souffrance? Est-ce qu'on ne souffre plus de la souffrance des autres quand on a compris ce que c'est de la souffrance?
Si c'est ta souffrance est liée à des pensées crues, évidemment qu'il y a plein de choses qui vont s'effondrer. Si la souffrance que tu ressens en pensant à la souffrance des autres est liée à des pensées crues, évidemment tout ça va s'effondrer quand c'est vu pour ce que c'est. Ta souffrance va s'effondrer.
Oui. Je vois les personnes qui souffrent, donc là je suis plus dans les pensées crues, je fais un constat. Est-ce que je peux me. Enfin. Parce que moi, quand je souffre parfois, je me dis est-ce que je souffre vraiment? Ou est-ce que je me fais du cinéma?
Tu te fais du cinéma.
Ben voilà.
Tu crois à des pensées.
Oui, non, mais c'est ça, mais c'est...
Et tu souffres vraiment, c'est la même chose.
Ça dépend quelle souffrance, ça dépend la souffrance.
Tu crois au film.
Ça peut être une souffrance très importante, hein. Non, je me dis, mais...
Mais tu ne peux pas, je ne te souhaite pas d'être un jour indifférente à la souffrance des autres. Mais en souffrir, c'est une autre histoire.
Ben, c'est une forme de la compassion.
Oui, c'est oui. Ça, c'est les limites de la compassion, de l'indifférence.
Mais non, ne mélange pas la souffrance avec, on va dire l'empathie pour mettre un mot dessus, avec le ressenti profond de ce que l'autre vit. Je ne suis pas coupé de ce que les autres sentent, au contraire. J'en suis probablement plus conscient qu'avant. Et j'en suis forcément affecté. Mais ce n'est pas une souffrance. À la fois j'en suis complètement affecté et à la fois j'en suis complètement libre.
Parce que c'est une pensée crue.
Non, parce que c'est pas, il n'y a pas de pensée justement, il y a juste le vécu, le ressenti.
C'est ça, parce que le chemin, hein, tu ne vois pas le vrai, quoi. C'est juste un ce que tu disais.
Mais moi, je ne vois
pas du tout le chemin. Tu connais, tu as fait le chemin vers ce que tu vis là maintenant. Donc tu peux effectivement être en empathie, quoi, c'est ce qu'on disait. Mais... Mmh. Et donc.
Mais je parle pas seulement de vous, je parle de n'importe qui serait même en réelle souffrance physique ou psycho-émotionnelle ou tout.
Je vois pas comment. C'est ça en fait, c'est vraiment le truc, c'est que je souffre de voir les autres souffrir.
C'est lié à des pensées.
C'est lié à des pensées. Les autres souffrent, c'est ça la pensée. C'est bien ça. Peut-être qu'il faut rajouter quelque chose. C'est parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait.
C'est pas celle qui fait souffrir. Hein.
C'est pas celle qui fait souffrir. Est-ce que j'ai fait... Ouh, je ne sais pas. Et la liberté, elle est où là-dedans? Si je la...
Non, mais tu ne peux pas partir dans ce sens-là. Tu dois partir du fait que toi, tu souffres de la souffrance des autres.
Oui.
Et là, qu'est-ce qui se passe en toi? Si tu portes le regard sur déjà tes sensations corporelles. Imagine-toi dans une situation où vraiment tu souffres de la souffrance de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe dans le corps?
Il y a des nœuds au niveau physique, au niveau du cœur, au niveau de la gorge. Mmh.
Ça serre à gauche, à droite, ok. Rien de bien insupportable.
Non, c'est pas insupportable.
Donc tu peux rester avec.
Oui. Et en fait, je vais rester avec.
Fais-le, là maintenant.
Il y a beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, envie de pleurer.
C'est comment être avec ça?
Mais quand on fait ça, on sait que, enfin, on se rend compte qu'il y a de l'irréel. Parce qu'on est dans un présent qui est différent. Le moment présent où on revient à l'intériorité, c'est déjà. Le reste, c'est du passé, donc c'est. C'est la fiction. Moi, c'est ce que je ressens.
La prochaine fois que tu es en face de quelqu'un qui souffre, je te propose de faire ça. D'être simplement avec les sensations physiques. Et de rester avec les sensations physiques. D'être pleinement avec elles. En étant... En regardant cette personne. Vraiment, en étant complètement en contact avec sa souffrance.
Ça, je l'ai déjà
dit. Et éventuellement, en étant pleinement en contact avec elle. Alors, laisse-toi émouvoir.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de souffrance. Il y a la gentillesse qui ressort. Il y a la volonté de faire un câlin, mais...
La langue pour un câlin ou la volonté?
Non, c'est... Si quelqu'un pleure, c'est... On va commencer, moi.
C'est un mouvement.
Voilà,
c'est un naturel.
Mouvement. C'est, voilà. Mais c'est... On rigole. On sourit.
Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la douceur.
Mais c'est vrai que sur le moment, il n'y a pas la souffrance.
Mais il n'y a pas
la
souffrance.
La souffrance, elle est créée après.
Il n'y a pas de souffrance.
Non. La souffrance, elle vient quand on se dit qu'il faudrait faire quelque chose.
Voilà, mais tu as déjà fait quelque chose. en étant avec cette personne comme ça, simplement dans cet accueil de sa souffrance, tu as fait plus que tu peux imaginer, tu peux rien faire de plus. On ne croit pas que c'est pas assez. Mais si tu t'imposes la pensée, il faudrait que je fasse plus, il faudrait que je me prenne autant, il faudrait que je sache quoi faire, comment, etc. Mais tu as déjà fait. C'est énorme ce que tu donnes en étant simplement là, présente, à accueillir la souffrance de l'autre. C'est énorme. Combien il y en a qui peuvent faire ça?
Justement, moi, ce qui m'interpelle, c'est peut-être le cas inverse, quand certaines personnes ne peuvent pas accueillir l'amour ou la tendresse qu'on peut leur donner, et ils sont dans un tel emprisonnement émotionnel, blocage émotionnel, qu'il y a comme une cuirasse qui repousse. Dans ce type de situation, là aussi, accueillir. Enfin, du moins pour celui qui veut donner, accueillir, que l'autre ne peut pas recevoir.
Accueillir sa résistance, accueillir sa défense, bien évidemment. Enfin, être soit avec, quand je dis accueillir, c'est pas faire quelque chose pour accueillir. Hein. Tu es accueil, donc tu peux pas, c'est pas une stratégie. C'est être avec, ah tiens, ça se défend, ah tiens, ça résiste, ah tiens, ça veut pas.
Et là encore, quand on...
On ne cherche pas les résultats.
Quand on reçoit un rejet...
Tu reçois. Tiens, comment c'est dans le corps, le rejet, là, tout de suite. Ça doit faire des choses. Et tu es avec ça. Et tu regardes ce qui se passe.
Mais ça ne fait pas forcément du bien.
L'idée qu'on s'en fait, pas le rejet.
Les attentes que tu as aussi vis-à-vis de la personne qui te renvoie pas ce que tu aimerais. Et ça aussi, tu peux. Enfin,
il est là, tu vois, ton piège. L'idée que tu te fais du rejet. Je suis rejeté, c'est terrible. J'ai encore raté. Ou il faudrait que je me prenne autrement. Ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour. Ou etc. Toutes ces pensées-là, c'est tout ça qui vient de polluer. Sinon, c'est juste le rejet avec la contraction dans le corps. Qui apparemment n'est pas grave, mais si on regarde de près, il n'y a rien de désagréable non plus, au niveau du corps. Puis après, il y a toutes les pensées associées. Mais est-ce qu'elles sont vraies, celles-là? Est-ce qu'elles méritent d'être crues? Est-ce que c'est la peine de les croire?
Oui, bien sûr, on touche du doigt une des peurs fondamentales. Je pense qu'elle est mienne, mais elle est sans doute partagée par d'autres. Hein. Cette peur du rejet, cette peur du rejet. Et cette paralysie, cette froideur que ça peut...
La peur d'être détruite ça,
oui, bien sûr. De non-reconnaissance, de ne pas être aimée, et donc de ne pas exister.
Et tout ça, il va falloir le regarder de près.
Mais il y a un moment que je le regarde de près.
Ça veut dire simplement être avec les sensations physiques que tout cela crée. Tu vois, quand on prend un nouveau-né dans ses bras, avec beaucoup d'amour, de délicatesse, de douceur, de tendresse, et sourire, tu vois, et tu prends tout ça dans tes bras, et tu regardes comment c'est fait, de quoi c'est fait dans le corps, reviens au corps, de quoi c'est fait dans le corps, quelles sont les sensations physiques associées à chacune de ces peurs.
Donc, par rapport à
soi-même. Toi, bien sûr, toi avec toi-même, ah oui, tout se passe en toi. Même l'autre, il apparaît en toi. Et être avec. Tu vois, accepter d'être mis aux larmes par l'enfant blessé. D'être complètement défait, impuissant. Sans contrôle. C'est ça l'amour.
Oui, ça, ce chemin-là, je l'ai déjà en partie fait. L'enfant blessé, au moins, bien sûr que je le prends, j'essaie de l'apaiser, enfin, de le prendre. Il pleure encore beaucoup, il est encore très fragile.
Mais c'est ok.
tout en toi et de son amour aussi.
Ben oui, elle donne le vice, ta mère.
C'est à moi de lui donner de l'amour.
Qui d'autre? Accepte d'être touché. Laisse-toi pleurer. C'est ok. T'as pas à t'empêcher de laisser s'exprimer ce qui est là.
Bien sûr, c'est aimer cet enfant et s'aimer soi-même. C'est le point de départ pour aimer l'autre aussi. On peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas déjà un petit peu soi-même.
Alors, vas-y.
Mais on a aussi besoin que l'autre nous aime.
Mais tu es aimé. Et puis même ça, c'est pas vrai, c'est une pensée. J'ai besoin que les autres m'aiment. Pipo. C'est pas vrai.
Mais quand on reçoit, quand on perçoit, peut-être que là aussi c'est un filtre déformant, mais quand on perçoit la haine ou le rejet dans le regard de l'autre, ça réactive forcément.
Mais bien sûr, c'est une belle invitation.
C'est une blessure ancienne.
Mais bien sûr, c'est une très belle invitation à regarder. C'est la vie qui te dit toc toc, regarde encore un peu, t'as pas tout vu.
Mais oui, quand ça dure vraiment très longtemps, ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce matin, je crois. Moi je disais ça il y a quelques minutes, c'est que ça peut conduire à la maladie, voilà.
Raison de plus pour se dépêcher d'être avec.
Raison de plus pour
se dépêcher d'être avec tout ce qui est là. Et tu vois, d'être vraiment avec et de se laisser être ému complètement. Parce que ce qui va sortir là, forcément ça va être libéré.
Oui et non, parce que je dis pas. Comment dire ?
Je parle pas de pleurer sur son sort. Hein.
Non, voilà, il y a déjà un certain nombre de prises de conscience qui ont été faites par rapport à cette blessure de l'enfant intérieur et ce besoin de.
Mais tout n'a pas été vu parce que sinon ce serait plus là.
Mais est-ce que la clé, là encore, tu vas me dire, c'est. Donc, je cherche pas des stratégies, mais dans la friction au quotidien avec toutes ces situations qui viennent exacerber justement cette souffrance, il faut bien apprendre, comme tu le dis, à regarder, à décrocher par rapport à ce moi, ces blessures qu'il porte, mais aussi grandir à un moment donné, devenir ce parent bienveillant qui va prendre soin de cet enfant un peu égaré, perdu et souffrant.
Ne fais pas d'une stratégie tout ça. Ce que je te dis là maintenant, je te le dis maintenant à toi spécifiquement compte tenu de ce qui se passe.
Enfin, je me sens quand même bien seule, moi, de tout ça. C'est pas comme je disais tout à l'heure, si je n'avais pas la prière dans ma vie,
je la comprends.
Je crois que je serais vraiment très malade.
Ouais, je te comprends, Marie.
C'est pas le long chemin, je suis plus si jeune, j'ai des longtemps que je cherche un.
Maria.
Le chemin.
Regarde-moi juste. Regarde-moi. Regarde-moi.
Elle a peut-être plus envie.
Je peux demander si elle avait envie.
Ça devient un exercice, une contrainte, une obligation. J'ai plus envie là.
Oh, ouais, c'est ça.
Merci, elle m'a tendu la perche. Non, c'est dur d'enfermer comme ça.
Mais pourquoi c'est dur?
Je sais pas.
Ah, regarde, regarde, qu'est-ce qu'il y a de dur?
Je sais pas, tu me regardes pleurer et c'est pas. Voilà, c'est pas drôle.
Tu vois un jugement?
C'est pas drôle.
Tu ressens un jugement chez moi?
Non, c'est parce qu'on sent le regard nous traverser. Voilà.
Et sent... qu'est-ce qu'il reste? Je ne t'ai pas regardé encore, attends.
Mais je comprends, je comprends.
Ouais.
Je comprends ce qu'elle peut ressentir parce que dans cette situation, ce serait pareil.
Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe quand tu me demandes de te regarder?
Quand tu me regardes.
Je suis pas très à l'aise.
Mais encore. Pourquoi ça te met tout d'un coup, tout ce drame s'en va et que tu te mets à rire?
Tu sens d'être la souffrance.
Elle est où la souffrance là tout de suite?
Mais là, je
ne
pense plus. Donc.
Ah oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Je t'ai juste dit, regarde-moi. Et ça met fin à la souffrance. Tu comprends quelque chose, toi?
Ça peut être momentané,
là. Oui, bien sûr. Je n'en ai pas une seconde.
Ça,
c'est ça peut se répéter aussi. Hein. Non, mais qu'est-ce que ça veut... Comment ça, qu'est-ce qui se passe que cette souffrance terrible qui date de ta petite enfance et dans laquelle tu es complètement prise disparaisse en quelques secondes, allez, 30 secondes quand tu me regardes? Qu'est-ce qui se passe?
Il y a un regard autre sur moi.
Lequel?
Ben, c'était le tien.
Oui, et alors il dit quoi mon regard?
Il est mon regard, mais peut-être mon propre regard aussi sur moi-même.
Le regard sur toi-même change. Lequel est-ce que tu poses?
Donc, il était fait, comme j'essaie de dire, d'un mélange de, peut-être de, d'embarras, un peu.
Au départ, oui, oui, oui.
Et puis, aussi de.
Regarde.
De tendresse. De tendresse. D'amitié. Je ne sais pas.
Et que... Je vais te demander de zoomer un peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé en toi. Qui fait que ce drame dans lequel tu étais s'est effrité. Est-ce que tu peux voir qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, ça a pu être dramatique. C'était dramatique, maintenant ça ne l'est plus. À un moment donné, ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, comment ça se fait que ça a changé?
Je
ne
sais pas s'il y a peut-être une émotion forte qui est remontée et puis tout s'est bousculé et voilà.
Peut-être.
Et elle a peut-être évacué quelque chose.
Essaye pas de dire quelque chose, parce que ce que je veux, c'est un regard qui se pose sur la chose.
Mettre un mot sur ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu cette mise à distance qui a permis de sourire. Voilà. Une mise à distance, voilà.
À un moment donné, ça s'est mis à distance.
J'ai plus fait corps avec cette souffrance.
T'as plus fait corps avec l'histoire. pas cesser de croire à l'histoire. À un moment donné, pas cesser de croire à l'histoire. C'est aussi bête que ça. Tu crois à l'histoire, tu souffres, tu ne crois pas à l'histoire, tu rigoles. C'est comme les jeunes qui vont voir des films d'horreur et qui rigolent tout le temps. Moi, je peux pas, ça me fait vraiment horreur. Mais eux, ça les fait rire. Moi, je colle à l'histoire, eux, ils ne collent pas à l'histoire. Alors, ça les fait rire.
Oui, donc on se raconte une histoire sur soi-même à laquelle on croit ou à laquelle on ne croit pas.
Voilà. C'est QFD.
Quand tu crois, tu souffres.
Quand tu crois, tu souffres. Quand tu ne crois pas, tu ne souffres pas.
Oui.
Tu ris.
C'est la fin aussi.
Et c'est la fin.
C'est n'importe quoi, parce que si tu es vraiment en souffrance, tu ne t'arrêterais jamais.
Si la souffrance était réelle, elle ne pourrait pas s'arrêter par un simple regard.
C'est ça que tu dis, je suis dans un film, il y a des moments où tu dis, je souffre terriblement, mais c'est n'importe quoi. Il y a des moments où tu te dis...
Tu vas pouvoir appliquer ça pour toi, c'est génial.
ça m'arrivait plein de fois de me mettre à pleurer.
C'est génial.
Tu regardes la couverture et me dis, mais est-ce que je pleure vraiment pour quelque chose?
Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait même quelque chose?
Mais cette histoire, elle comme disait Gilles, ça peut être momentané, elle peut me rattraper.
Mais bien sûr, elle peut se représenter. Mais maintenant, tu sais qu'elle est fausse. Tu sais que si elle est crue, elle a de la. Elle prend de la force si elle n'est pas crue.
Tu voulais parler quand tu parlais ce matin de l'inconscient qui fait irruption et que tu ne contrôles pas.
Mais peu importe d'où ça vient.
Des gens qui viennent de l'enfance, des choses à
faire. Roland, on peut allumer, s'il te plaît, les sons.
Le vécu que tu vis, c'est la souffrance.
Merci.
Oui. Il y a la partie conscientisée et puis il y a la partie qui va me rattraper dans le moment où.
Oui, mais sauf que maintenant que tu sais que c'est une histoire et que si elle est crue, tu souffres et si elle n'est pas crue, tu ne souffres pas, la prochaine fois, tu crois que tu vas y croire autant?
Sans doute que c'est comme tout exercice, plus je vais le conscientiser comme voilà. Une histoire que je me raconte,
voilà.
Et moi, elle aura dans
plus tu vas la regarder pour une histoire, plus tu vas regarder tout ça pour ce que c'est, et plus ce sera tranquille, et plus ça va s'effriter. Mais tu vois que ça n'a rien à voir avec la solitude, avec l'abandon, avec la peur d'être détruite, avec le manque d'amour, avec... c'est juste une histoire qui se raconte. Et qui est cru. Tout ça, c'est plus là. Là maintenant, hein, je ne dis pas que ça ne reviendra pas.
Bon. On garde quand même l'empreinte dans ce qu'on a vécu de notre passé, où on a des empreintes.
Oui, on retombe dans les mêmes ordinaires.
Expérience.
Exact.
Bon, tu viens d'évoquer toute la liste des couleurs, effectivement. C'est vrai que parfois on a peur de choses qui n'existent pas, mais parfois on a des peurs parce qu'on a aussi fait des expériences qui nous ont marqué.
Mais c'est le passé. Et quand bien même ce corps en mourrait, rien ne se passe. Ce que tu es ne meurt pas, ce que tu es n'en est pas affecté. Voilà.
Gérard, est-ce qu'on peut prendre la prière comme une stratégie, comme une pensée?
Je n'ai pas tout à fait fini. Tu sens ce que je veux dire? Toi, l'être, c'est que quand tu essayes d'arrêter d'être, tu te rends compte que tu es, que tu ne peux pas ne pas être. Que ce corps, il y arrive n'importe quoi, ou qu'il y arrive des choses merveilleuses ou douloureuses ou n'importe quoi, il n'est pas affecté. Le refuge, il est là, dans un premier temps. Quoi qu'il se passe, ça n'a pas grande importance. On peut prendre la prière comme stratégie, on peut tout prendre comme stratégie, ou pas. Hein. Mais quel est l'intérêt? Pourquoi tu poses cette question?
Ben parce que j'ai l'impression que ça fait comme une stratégie, parce qu'on est malheureux, alors on se réfugie dans la prière.
On a le droit de prendre l'aspirine si on a mal à la tête. Hein.
On a quoi?
On a le droit de prendre l'aspirine si on a mal à la tête.
Oui.
Je veux dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien et à améliorer le quotidien. Je veux dire, la vie, elle est comme elle est. C'est pas...
Parce que la prière, c'est comme des grandes pensées. En fait,
ça dépend de ce que tu appelles prier.
La stratégie, c'est quand il y a un côté systématique,
c'est ça? Non, la stratégie, c'est l'idée que je vais arriver à quelque chose par mes propres efforts. Je vais faire quelque chose pour, dans le but de.
On va la prier un peu quand je me sens encombrée pour me purifier, comme si j'avais besoin d'être purifiée.
Eh bien, pourquoi pas? Si c'est ce qui est là maintenant.
Parce que je vois tellement, avec les enfants, au niveau du pardon, quelque chose qui se passe extraordinaire, que je ne comprends pas. Je me dis, c'est fabuleux, il y a des mots qui aident à dépasser, en fin de compte, l'entendement. Il y a une dispute, il y a quelque chose, je dis pardon, et puis au moment de l'amour, ça passe.
Oui.
Donc je trouve qu'il y a des mots très, très forts, en fin de compte.
Oui.
Qui permettent d'aller au-delà de ce que je peux. Alors c'est pour ça que je me demandais pour la prière, est-ce que tous ces mots que je peux dire peuvent nous aider ou au contraire aller au-delà?
Moi, c'est une question qui n'a pas de sens. C'est qui celui qu'il faudrait aider et ce serait quoi les mots et etc. Toi, il n'y a pas un moi qui puisse être aidé, tu pourrais dire, tu vois. Mais il n'y a pas de mal à prier d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'une façon répétitive ou que ce soit en étant simplement au cœur de ce qu'on peut toucher en soi, en laissant ça s'exprimer ou d'une autre manière. Il n'y a pas des choses à faire et des choses à ne pas faire dans ce domaine. Comme je disais tout à l'heure, si tu as envie de t'éclater en jet-ski, éclate en jet-ski. Enfin, si l'allant naturel, je parle pas de désir en fait, je parle d'allant naturel, et t'éclater en jet-ski, va faire du jet-ski. Et si c'est méditer, médite. Et puis si c'est autre chose, fais autre chose. Votre voix, elle est personnelle, et elle est contenue de votre personnalité, qui elle demeure.
Notre conditionnement, parce que si j'ai jamais appris à méditer, je ne peux pas méditer, je ne sais pas ce que c'est. Et si j'avais fait.
Moi, tu crois ça, hein? C'est comme Jourdain faisait de la prose. Moi, je n'ai jamais appris à méditer. L'expérience mystique dont je parlais tout à l'heure, c'est la première fois que je me suis assis à méditer. Je ne savais pas qu'il fallait 20 ans pour arriver quelque part. C'était ma chance, peut-être aussi. Tu vois ce que je veux dire? On n'en sait rien. Lâchez tous ces concepts.
Ben, c'est difficile de lâcher le concept quand on est tellement bien d'avoir médité, de dire bon, je vais pas me rasseoir pour retrouver ça. Donc c'est lâcher le.
Mais pourquoi pas?
Ouais,
oui. Où est-ce qu'il est écrit qu'on n'a pas le droit d'aller bien et de méditer pour aller bien, je veux dire.
Oui, s'approcher à un bien-être, c'est prendre une prise ou quelque chose. Donc il a fallu que je lâche un peu.
De toute façon, si ça s'accroche à un bien-être, ça s'accroche à un bien-être. Et si ça ne s'accroche pas, ça ne s'accroche pas. Mais ce n'est pas toi qui t'accroches et ce n'est pas toi qui te décroches. Il n'y a pas de moi. Il y a des pensées qui disent « Allez, décroche-toi. » Et puis elles sont suivies. Par personne. Enfin, pas par un quelqu'un. Pas par un nom. Attention tout le temps à ça. Détendez-vous. Ravana Maharshi disait « Be still », sois tranquille, serein. C'est vraiment, soyez cool, quoi, comme disent les jeunes. Ne faites pas de tout ça une affaire si sérieuse. Il n'y a rien de sérieux.
Ben, c'est quand on se détend aussi qu'on reçoit le plus. On est réceptif. Donc, automatiquement, en étant réceptif, on est présent, ce qui est là, c'est tout.
Ben oui. Ben oui. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on a tendance à faire. Il faut que je fasse quelque chose pour y arriver. Ça, ça crée une tension et c'est fini. Donc, enfin, ça peut arriver un jour comme ça, mais dans l'ensemble, ça vous coupe justement de cette présence.
Étant tellement réceptif, on a l'impression qu'on reçoit seulement l'aller. C'est comme si on ne doit pas donner, on ne doit pas donner, de toute façon, on est là, et puis les choses se font tout simplement.
Mais bien sûr, comment tu peux dire que ça ne donne pas simplement... C'est pas toi qui donne, ça donne de toutes les façons.
Oui, on a l'impression d'être réception, mais pas.
Bah, tu restes avec ça, puis tu regardes ça. Parce que même être réception, c'est beaucoup trop. Même ça, je vais te dire, c'est fou. T'es pas réceptive. T'es tout ce qui est. Tout ce qui est ne peut pas recevoir quoi que ce soit. C'est une apparence au sein de ce qui est. Je t'interpelle comme ça parce que tu pars souvent dans des concepts, tu vois, à essayer de cadrer les choses, à les mettre dans des cases, à essayer de les étiqueter et tout.
Moi, j'aimerais bien ça.
Et ben, moi, je vais plutôt, toutes les casser, ces cases.
Oui, je sais bien, c'est ça qui est.
C'est que des cases. T'en as pas besoin. Une petite pause.